Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Père, nous voulons écouter comme écoutent les disciples. Je prie que l'onction du Saint-Esprit se répande dans ces lieux, ainsi qu'il est écrit, l'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes choses. Je prie, oh Dieu, qu'en ce matin, que le chaîne soit brisé, que des liens tombent, que des gens soient affranchis dans le nom de Jésus. Tu as dit que tu as envoyé ta parole et ta parole a guéri, ta parole a délivré. Père, je prie, je déclare et je confesse que nous allons vivre ces choses ce matin dans le nom de Jésus. Car tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait hier, tu peux le faire aujourd'hui encore. Seigneur, nous servons un Dieu en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Voilà pourquoi nous proclamons la victoire dans le nom de Jésus. Et le peuple dit Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur en son maintenant? Alléluia. 2010 restera dans l'histoire de Philadelphie parce que c'est l'année où on aura eu le séminaire le plus long de l'histoire. Vous vous rendez compte? C'est aujourd'hui que le séminaire se clôture. Séminaire le plus long de l'histoire. Vous vous rendez compte? C'est aujourd'hui que le ceux qui avaient acheté des papiers des programmes, certainement qu'ils ont vu qu'il y avait une partie, la dernière partie qui était la conclusion du séminaire qu'on n'avait pas encore abordé. Le jubilé. Alléluia. Et ce matin, nous allons conclure, nous allons clore le séminaire avec le jubilé. Dis à ton frère, jubilé. Gloire à Dieu. Nous allons lire Lévitique, le chapitre 25, le 8e verset, jusqu'au 24e verset. Lévitique 25, 8 à 24. La Bible dit comme ceci. Tu compteras 7 sabbats d'année. 7 fois, 7 années. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne semerez point, vous ne moissonnerez point ce que le champ produira en d'eux-mêmes et vous ne vendagerez point la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez à votre prochain, ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Tu achèteras de ton prochain en comptant les années depuis le jubilé, et il te vendra en comptant les années de rapport. Plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix. Et moins il y aura d'années, plus tu le réduiras, car c'est le nombre de récoltes qu'il te vend. Aucun de vous ne trompera son prochain, et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique, et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété, et vous y habiterez en sécurité. Si vous dites, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons pas point et ne ferons point de récolte, je vous accorderai ma bénédiction sur la 6e année. Dieu prévoit toujours. Et elle donnera des produits pour 3 ans. Vous sèmerez la 8e année et vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à la 9e année, jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez de l'ancienne. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Amen. Le séminaire nous a permis d'étudier les fêtes de l'Éternel. Et du reste, le thème, c'était ou c'est encore, le Dieu d'Israël ordonne la fête. Et ensemble avec le pasteur, ainsi que le pasteur à Toms, nous avons étudié les sept fêtes de l'Éternel. Et vous vous rappellerez, nous avons parlé de la Pâque, nous avons parlé des pains sans levain, nous avons parlé de la fête des prémices, nous avons parlé de la fête des semaines, la Pentecôte, nous avons parlé de la fête de trompettes, nous avons parlé des expiations, autrement dit jours de pardon, et nous avons aussi, en fin de compte, parlé du jour de la fête des tabernacles. Alléluia! Ceux qui étaient là et qui ont suivi les séminaires peuvent se rappeler des choses si profondes que nous avons étudiées en ces lieux par rapport à ces thèmes et comment est-ce que cela s'appliquait en Israël et aussi comment est-ce que cela s'applique à nous aujourd'hui, nous, Église. Et parmi les fêtes que Dieu a instituées, le Seigneur avait institué aussi le jubilé. Et si vous lisez Lévitique, le chapitre 28, vous allez vous rendre compte, déjà à partir du 1er jusqu'au 7e verset, avant que Dieu institue le jubilé, le Seigneur a institué l'année sabbatique. Toute une année qui était une année de repos, qui était un sabbat, une année où on ne travaillait pas, où on ne récoltait pas, où on ne moissonnait pas, on ne semait pas. Personne ne pouvait travailler l'année sabbatique. Mais comment est-ce que cela se passait? Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous compterez chaque fois 6 années. Autant dans les livres de Genèse, il avait établi 6 jours de travail et il a dit à l'homme, tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour, tu te reposeras car ça sera un jour de l'Éternel. Ce jour-là, tu sanctifieras l'Éternel. Et le Seigneur était si rigoureux avec le sabbat qu'il avait dit à Moïse, le jour où l'un des enfants d'Israël osera travailler le sabbat, que celui-là même soit puni des morts. Dieu voulait que le sabbat soit sanctifié, que ce jour-là, qu'on stoppe toute activité et qu'on se souvienne de l'Éternel, qu'on mette ce jour à côté afin de sanctifier le nom de l'Éternel. Et je me rappelle encore ce que nous avons vu lors du séminaire, le Seigneur poussait l'homme à cela au milieu de tes activités, au milieu de tes occupations, au milieu de tes préoccupations, sache toujours trouver un temps pour Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si tu ne sais pas trouver un temps pour Dieu, le Seigneur est capable de créer un temps dans ta vie. Amen. Je suis occupé, j'ai des réunions, je dois faire ceci, je dois faire cela. Le Seigneur va faire en sorte qu'on te donne même un congé technique que tu n'as pas prévu. Pour que tu apprennes à chercher Dieu, à trouver du temps pour l'Éternel. Alléluia. Alors n'attends pas que Dieu te pousse à un moment de retraite. Dans tes programmes, apprends à programmer aussi de temps où tu cherches la face du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, autant que nous avons soif de Dieu, Dieu aussi a soif de nous. Amen. J'aimerais plus revenir sur ce chose, mais il est important que nous, enfants de Dieu, que nous puissions conserver un temps, mettre un temps de côté pour l'Éternel. Et le Dieu a dit, le 7e jour sera mon jour. Non seulement qu'il a institué un jour de sabbat, mais il a aussi institué toute une année que l'on a appelée année sabbatique. C'est-à-dire quoi? Les enfants d'Israël étaient tenus de travailler pendant 6 ans. La première année, ils travaillent. La deuxième, ils travaillent. Troisième, quatrième, cinquième, sixième, ils travaillent. Mais la 7e année, Dieu a dit, cette année-là, vous ne ferez aucune activité, aucune œuvre. Ça sera une année de repos. Et en agronomie, on a appris que les agriculteurs ont mis un temps de côté qu'on appelle jachère. C'est un moment où la terre est en repos. Je me suis dit, est-ce que Dieu se met en peine de la terre? Dans le fond, quand Dieu dit à Israël, la 7e année, vous ne travaillerez pas, cela permettait aussi à la terre de se reposer. Cela permettait à la terre de se reconstituer, aux sels minéraux de revenir, afin que quand vous allez reprendre, que la production puisse être fructueuse. Alléluia. Donc, en même temps que Dieu institue le repos pour lui, mais l'objectif principal dans le cœur de Dieu, c'est l'homme. Le repos que je te donne, c'est pour toi. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, quand il parlait avec les docteurs de la loi, à un moment, il était obligé de leur dire, Dieu a institué le sabbat pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat. Alléluia. Alors, en parlant de jubilé, Dieu a dit, pendant que vous serez en train de compter les années sabbatiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, 6 années de travail et 1 année sabbatique, 6 années de travail et 1 année sabbatique, Dieu dit, vous allez compter 7 sabbats d'année, donc 7 années sabbatiques. Alléluia. Cela veut dire quoi? Tout simplement, Vous travaillerez la première année, la deuxième année, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième année sera l'année sabbatique. Et dès l'instant que vous atteignez la septième année, vous commencez à compter un. Ok? La septième année, c'était la première année. Après l'année sabbatique, vous reprenez encore. Une année, deux années, trois ans, vous arrivez encore à l'année sabbatique. La deuxième année sabbatique, ça sera deux. Dieu dit, vous compterez ainsi les années sabbatiques sept fois. Ok? Au bout de compte, 7 fois 7, ça fait 49. Donc, ça fait 7 années, 7 années, 7 années, 7 années fois 7, c'est 49. Dieu dit, quand vous arriverez au 40e année, à la 40e année, la 50e, c'est celle-là qui sera considérée comme l'année de jubilé. Amen. Il y avait quelques caractéristiques pour l'année de jubilé. Dieu dit, vous allez sonner de la trompette. Et qu'est-ce qui se passera l'année du jubilé? Ça sera une année particulière. Premièrement, dès l'instant que l'on sonnera le jubilé, chacun sera en mesure de revenir à sa propriété. Donc si tu avais un terrain, tu avais des champs, tu avais des propriétés que tu avais perdu, l'année du jubilé, tu étais tenu de recouvrir tes droits sur tes propriétés. Qu'est-ce qui se passait? Il arrivait qu'un enfant d'Israël, pour une raison ou une autre, connaissait une situation de crise, une situation de pauvreté. Et pour s'en sortir, il n'avait pas d'autre choix que de vendre ses champs, que de vendre ses terrains. Alors le Seigneur dit, si quelqu'un, à cause d'une situation quelconque, arrive à être dépossédé de son bien, l'année du jubilé, peu importe le prix, il recouvre son droit sur son terrain. Alléluia. Vous vous rappellerez quand Dieu, Akab est venu vers Naboth pour le forcer à lui vendre son champ, Naboth a dit, je ne ferai jamais une telle chose. Je ne vendrai pas mon héritage. Pourquoi? Parce que dans la pensée de Dieu, même quand Josué a fait la distribution des terres, chaque tribu était propriétaire d'une portion des terres. Et pour des générations à perpétuité, chaque tribu devait rester propriétaire de la terre que Dieu lui avait donnée. Alléluia. Et déjà lors du jubilé, le Seigneur voulait que les enfants d'Israël comprennent que ce que je le donne réellement. Je ne reprendrai plus, je ne te déposséderai pas de ce que je te donne. Et la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons, ni de ses appels. Bien aimé, ce que Dieu t'a donné, c'est à toi et personne ne va t'en déposséder. Alléluia. Ne permets pas à quelqu'un, ni au diable de prendre ce que Dieu t'a donné, l'héritage que Dieu t'a donné est à toi. Et le Seigneur voulait garantir cela. Voilà pourquoi Naboth a dit, je ne peux me déposséder de l'héritage de mes pères. Et vous vous rappellerez en Israël, à un moment donné, dans l'une des tribus où il n'y avait que des filles, il y avait un problème. On a même demandé, mais est-ce qu'on peut donner de l'héritage, on peut donner des terres aux filles? Dieu a dit, oui, ils sont des héritiers, il faut leur donner aussi la terre. Et même quand ils ont eu les terres, ils avaient un problème parce qu'ils n'avaient pas de mari. Qu'est-ce qui allait se passer? Dès l'instant qu'elles se mariaient, la terre allait passer dans l'héritage de l'homme. Alléluia! Ce qui fait que par le fait du mariage, ils étaient même susceptibles de perdre leur bien, de perdre leur terre. Dieu a dit à Moïse, voilà ce que tu vas faire. Dis à ces filles de ne pousser que les bien-aimés, que les frères de leur propre tribu. Comme ça, leur héritage restera dans leur tribu. Cela était une institution de Dieu. Dieu voulait que ce qu'il avait donné à chaque tribu puisse ne rester qu'à cette tribu-là. Amen. Alors, c'est ce qui se passe aussi, c'est cette réalité que l'on voit lors des jubilés. Le Seigneur était en train de restituer à chacun ce qui lui appartenait. Ça, c'était un. Un autre élément, c'est que le Seigneur veillait à ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui l'équilibre social. Le Seigneur ne voulait pas qu'il y ait des disparités entre les classes sociales. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte et à la longue, le pauvre s'est dépossédé et les riches, puisqu'ils étaient riches, ils devenaient de plus en plus riches et le pauvre allait devenir de plus en plus pauvre. Et le Seigneur ne voulait pas de cet écart. C'est même la pensée que nous avons revue à l'église primitive. Ils mettaient tout en commun. La Bible dit, celui qui en avait plus n'en avait pas de trop. Celui qui en avait peu n'en avait pas moins. Alléluia. Le Seigneur s'est arrangé de manière à ce que tout le monde se retrouve. Bien aimé, c'est la pensée de Dieu. Voilà pourquoi au Centre Missionnaire Philadelphie, nous avons la pensée des œuvres sociales. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est lui qui n'a pas qu'il puisse avoir aussi quelque chose. Dieu veut que même les indigents plutôt puissent se retrouver. La deuxième pensée pour laquelle Dieu a institué les jubilés, c'était cet équilibre au sein de la société. Mais aussi, un troisième élément, c'est que la Bible déclare que quand on sonnera les jubilés, tous les esclaves seront libres. Mais écoutez-moi bien, pas les esclaves étrangers, des esclaves juifs. En Israël, on pouvait rencontrer plusieurs types d'esclaves. Il y avait des esclaves, des prisonniers de guerre, quand les enfants d'Égypte allaient en bataille et qui remportaient la victoire, ils revenaient avec des prisonniers, ils faisaient des esclaves. Et ce n'est pas de ces esclaves-là dont il s'agissait. Le jubilé ne libérait pas les étrangers, le jubilé ne libérait que les enfants d'Israël. Qu'est-ce qui se passait? Quand un enfant d'Israël avait commis un forfait ou un délit et que la réparation lui coûtait plus que ses moyens, Dieu avait ordonné, il avait même donné la possibilité aux créanciers de prendre les débiteurs à son service. Alléluia. Pendant un certain nombre d'années, l'enfant d'Israël qui était incapable de payer ses dettes était devenu esclave du créancier pendant un certain nombre d'années jusqu'à atteindre le prix de la réparation. Amen. Ou soit, quand il avait une dette pour une raison ou une autre, il n'arrivait pas à payer, il disait « Ok, tu vas travailler chez moi pendant… » Vous vous rappelez l'histoire de cette femme qui est venue pleurer auprès d'Élisée et qui lui a dit « Voilà, mon mari, c'était l'un des fils de prophètes, mais il est mort, il avait laissé des dettes. Maintenant, les créanciers veulent venir prendre mes enfants. Pourquoi? Parce que les enfants devaient travailler comme esclaves dans la maison de cet homme jusqu'à ce que la réparation soit faite. Alors Dieu dit aux enfants d'Israël, peu importe le délit, peu importe la dette, même si tu étais esclave, le jour du jubilé, l'esclavage prenait fin. Alléluia. Mais cela n'était pas pour les étrangers. Pourquoi? Parce que les étrangers n'avaient pas de droit à l'alliance. Alléluia. Mais voilà pourquoi aujourd'hui, quand nous parlons des jubilés, quand nous parlons de la liberté, quand nous parlons de l'affranchissement, frère, cela ne concerne pas ceux qui ne connaissent pas Christ. Les affranchis sont ceux qui ont rencontré Christ, ceux qui se sont identifiés à Dieu. C'est à cela que le Seigneur Jésus accorde la liberté, accorde l'affranchissement. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, il ne nous convient pas seulement de crier que nous sommes fils d'Abraham. Nous sommes fils d'Abraham encore, il faudrait-il que nos cœurs soient circoncis. Parce qu'il ne s'agit pas d'une circoncision de la chair, mais une circoncision du cœur. Alléluia. Et la grâce et la faveur de Dieu ne se repent que sur ceux qui ont été connectés à Christ. Alléluia. Le jour où le Seigneur a institué la Pâque, comme on nous a enseigné, Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous allez tuer, sacrifier un agneau qu'on a appelé l'agneau pascal. Vous prendrez de son sang, vous mettrez sur le linteau de vos portes. Quand l'ange de la mort passera, il verra le sang sera pour lui un signe, et dans la maison où il y aura le sang, il n'y aura pas de mort. L'ange de la mort ne frappera pas, mais partout où il n'y aura pas le signe, la marque du sang, l'ange de la mort va frapper. Bien-aimés, Dieu n'avait pas ses regards fixés sur des individus. Le Seigneur cherchait là où il y avait le sang. Dieu ne cherchait pas où étaient les enfants d'Israël et où étaient les Égyptiens. Dieu cherchait le sang. Alléluia. Et Dieu a dit aux enfants d'Israël, restez à l'intérieur de maisons où il y a le sang. Quiconque sortait de la maison, l'ange allait le frapper. Peu importe que tu dises, je suis un enfant d'Israël, je suis un fils d'Abraham, là n'est pas le problème, je ne veux pas que tu me dises de qui tu es, je veux voir sur toi le signe de l'alliance. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, ça sert à rien de crier les bénédictions et les promesses de Dieu comme des slogans. Cela n'applique que dans la mesure où Dieu voit sur toi le sang de l'alliance. Parce que Dieu te donne ses grâces et ses faveurs, pas à cause de ce que tu es, mais à cause de ce qu'il y a sur toi. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte comme ça que le jour où Abel et Caïn étaient en train d'offrir des sacrifices à l'Éternel, la Bible dit que Dieu a regardé Abel, il a agréé Abel et puis il a agréé son offrande. Il n'a pas agréé Caïn et il n'a pas agréé non plus son offrande. Il a porté un regard favorable sur Abel ainsi que sur son offrande et il n'a point apporté un regard favorable sur Caïn et sur son offrande non plus. Donc qu'est-ce qui se passe? Caïn avait fait quelque chose qui avait déplu au cœur de Dieu. La rancœur est montée dans son cœur, la jalousie est montée dans son cœur, la colère est montée dans son cœur, il était irrité contre son frère. alors qu'il avait un visage triste et abattu, ce qui m'étonne, c'est qu'après que Caïn ait fait quelque chose qui a déplu au cœur de Dieu, au point de ne pas l'agréer, la Bible dit que Dieu est venu vers Caïn. Dieu a dit à Caïn, mais Caïn, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas comme ça d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu es si triste? Mais pourquoi ton visage est abattu? Qu'est-ce qui se passe, Caïn? Bien-aimé, ça c'est quelque chose qui m'a fort touché. Peu importe les délits que Caïn avait fait, peu importe l'action de Caïn, Dieu s'intéressait encore à le contempler, à avoir de l'attention sur lui, à lui manifester son amour, à lui préoccuper de ce qui dérangeait son cœur. Alléluia! Écoutez, le problème de Dieu, ce n'est pas toi. Le problème de Dieu, c'est autre chose. Je vais vous le dire. Dieu dit à Caïn, écoute Caïn, le péché se couche à ta porte. Mais si tu agis bien, toi domine sur lui. Car si tu agis bien, tu releveras ta tête. Vous savez, en français, les mots sont limités. Mais dans les textes hébreux, le mot qui a été traduit par péché, c'est le même mot, exactement le même mot qui a été traduit par sacrifice d'expiation. Donc quand Dieu était en train de dire à Caïn, tu as péché, le péché se couche à ta porte, il voulait autrement lui dire, certes tu as péché, mais en même temps que le péché est là, juste à côté, il y a le sacrifice d'expiation. Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Alléluia. Et cela est mieux exprimé dans le Nouveau Testament quand l'apôtre dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Parce qu'à chaque fois que Dieu voit le péché, il voit directement les sacrifices expiatoires. Et ainsi, l'apôtre Paul dit, Dieu a fait de lui péché afin que nous, nous soyons sauvés. Dieu a fait de lui péché. Christ s'est fait péché. En fait, il s'est fait sacrifice d'expiation afin que nous, nous puissions recevoir la vie. Amen. Bien aimé, cela ne dépend ni de ce que tu fais, ni de qui tu es. Ce que Dieu recherche, c'est le sang sur toi. Voilà pourquoi les étrangers n'avaient pas droit au jubilé. Et même quand vous allez remarquer que dans le premier verset, quand nous avons lu le verset 7, Dieu a dit aux enfants d'Israël, quand vous allez sonner le jubilé, vous ne le sonnerez pas n'importe quelle période de la 50e année. Vous attendrez le 10e jour du 7e mois. Pourquoi le 10e jour du 7e mois? Rappelez-vous de ce que nous avons étudié dans les fêtes de l'Éternel en Israël. Le 10e jour du 7e mois, c'était cette date-là que Dieu avait ordonné aux enfants d'Israël de célébrer le jour des expiations. La fête du pardon. Et qu'est-ce qui se passait? Pendant toutes les autres fêtes, ça se passait dans des clameurs, dans des joies, dans des réjouissances. Mais le jour des expiations, il n'y avait ni clameurs, ni réjouissances. C'était un jour où les enfants d'Israël devaient humilier leur cœur dans la tristesse. C'était un jour de jeûne. C'était un jour de prière, un jour de pleurs. Un jour où on devait répondre son cœur devant Dieu. Un jour où on devait revenir à Dieu. Un jour où on devait se réconcilier avec Dieu. Et c'était le jour des expiations, ce jour-là, une fois l'an, où le sacrificateur, avec le sacrifice, il entrait dans le Saint des Saints, comme on nous l'a enseigné, il sacrifiait, il offrait, il répandait le sang, et quand il sortait, il disait au peuple, Shalom Alem, c'est-à-dire que la paix de Dieu soit avec vous. Pourquoi? Parce que le péché est effacé. Et Dieu a dit, le jubilé commencera le jour des expiations. Pourquoi? Parce que ce qui fait que nous puissions accéder à la liberté de Dieu, c'est l'expiation du Christ. Sans expiation, il n'y a pas de jubilé. Alléluia. Voilà pourquoi les étrangers n'avaient pas droit au jubilé, à la délivrance, au bénéfice qu'offrait le jubilé, parce qu'ils ne passaient pas par l'expiation. Tout enfant d'Israël brisait son cœur le jour des expiations, se réconcilier avec Dieu. Et là, le jubilé commence. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ disait, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et même quand il a envoyé les disciples, il a dit, n'allez pas chez des étrangers, mais allez rien que chez des brebis perdues de la maison d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont droit, qui ont part à l'alliance. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que quand le Seigneur était en train de donner à Moïse les instructions pour la construction du tabernacle, comme nous le savons, le tabernacle avait trois parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Dieu a dit à Moïse, dans le parvis, tu vas mettre la cuve de rein, mais tu vas aussi mettre ce que l'on a appelé l'autel des holocaustes, autrement appelé l'autel des reins. Et dans le lieu saint, tu mettras la table des parfums. Alléluia. L'autel des holocaustes était là où le sacrificateur sacrifiait et il répandait le sang. Et la Bible dit, ou du moins les archéologues nous disent, que Dieu avait dit à Moïse de placer l'autel des holocaustes juste à l'entrée du parvis. Pourquoi? Parce que dès l'instant que quelqu'un entrait, accédait pour aller dans la présence de Dieu, il devait d'abord passer par l'autel des holocaustes, c'est-à-dire reconnaître ses péchés, s'identifier au sacrifice. Et dès l'instant que cela était fait, ses péchés étaient pardonnés, il pouvait enfin accéder à la présence de Dieu. Et l'autel des parfums, c'était là où on répandait le parfum que l'Éternel agréait. Cela voulait dire les prières, les adorations des saints que l'Éternel agréait. Mais l'autel des parfums symbolise Christ. Nos prières ne peuvent être agréées que par Jésus. Voilà pourquoi Christ a dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Dieu va le faire, Dieu va vous l'accorder. Dieu ne nous exauce pas parce que nous sommes nous, mais Dieu nous exauce parce que nous nous identifions à Jésus. Voilà pourquoi le jour où Jacob est venu prendre la bénédiction chez son père Isaac. Isaac a dit, écoute, la bénédiction c'est pour Jacob. Lui il s'attendait à voir Jacob. Mais la mère d'Isaac, il s'attendait à voir Ésaü plutôt. Mais la mère de Jacob, connaissant ce qui se passait, a dit à son fils, voilà, ton père est sur le point de donner l'héritage au premier-né. Qu'est-ce que nous allons faire? Tu vas faire ce qu'il demande. Moi je vais préparer, tu vas l'apporter pour qu'il mange. Je vais préparer ce qu'il aime. Mais Jacob dit, mais il va me reconnaître, il saura que je ne suis pas Ésaü. Rebecca, sa mère lui a dit, écoute, là n'est pas le problème. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas prendre la peau d'un animal, que tu vas mettre sur toi. Ce qu'il a fait, pourquoi? Parce que Ésaü était poilu et Jacob ne l'était pas. Et quand il est venu, Isaac, plutôt son père, l'a touché, il a dit, la voix que je suis en train d'entendre, c'est la voix de Jacob. Ce n'est pas la voix d'Ésaü, mais celui que je suis en train de toucher, c'est le corps d'Ésaü. Alléluia. Puisque je touche le corps d'Ésaü, je te donne la bénédiction. Bénédiction d'Ésaü, pas parce que je suis convaincu que tu es Ésaü, mais parce que j'ai touché le corps d'Ésaü. Et vous allez vous rappeler que quand Adam et Ève ont péché, alors qu'ils ont pris des peaux de figues pour se constituer un vêtement, Dieu est venu, il a vu leur faiblesse, il a vu leur faille, parce que l'œuvre de l'homme n'est que souillure. Il a voulu pallier à cette faiblesse, il est allé sacrifier un animal, il a pris la peau d'animal, il est venu les revêtir afin de parfaitement cacher leur nudité qui est apparue par le fait du péché. Donc quand tu pries, l'Éternel entend la voix de Jacob, mais il t'est béni parce qu'il touche la peau d'Ésaü. À chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, Dieu dit, j'entends la voix de Ken, mais quand je touche le corps de Jésus. J'entends la voix d'Olivier, mais quand je touche le sang de Jésus. J'entends la voix de Robert, mais quand je touche le sacrifice de l'agneau. Voilà pourquoi nous accédons par le Christ. Et Dieu a dit, le jubilé commencera par l'expiation. Frère, ce que j'ai remarqué encore, Dans l'autel de l'Holocauste, que ce soit avec l'autel de parfum, la Bible dit que dans chaque coin, il y avait des cornes. Il y avait 4 cornes, que ce soit sur l'autel de l'Holocauste, que ce soit sur l'autel de parfum. Jubilé vient d'un mot hébreu. Yobel. Yobel veut dire corne du bélier. La Bible déclare que quand le souverain sacrificateur sacrifiait l'Holocauste, il prenait le sang de l'Holocauste qu'il imbibait sur le corne qu'il y avait sur l'autel, dans le coin de l'autel.
J'aimerais vous donner des passages, parce qu'il est bon que vous puissiez voir et vérifier par vous-même. Regardez Exode 29. Exode 29, 12. La Bible dit ceci, tu prendras du sang du taureau, tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel et tu répandras tout le sang au pied de l'autel. Alléluia. Dans 1 roi, le chapitre 2, le verset 28, disons ça rapidement. 1 roi, le chapitre 2, le verset 28, la Bible dit ceci. Le bruit en parvint à Joab, qui avait suivi le parti d'Adonijah, quoiqu'il n'ait pas suivi le parti d'Absalom. Et Joab se réfugia vers la tente de l'Éternel et saisit le corne de l'autel. Si vous lisez également 1 Roi 1, le verset 50, vous allez voir exactement ceci. Adonijah eut peur de Salomon, il s'éleva aussi, s'en alla et saisit le corne de l'autel. Qu'est-ce qui se passait? Quand un homme avait un problème, avec qui que ce soit avec le roi, que ce soit avec l'un des chefs du peuple, et qu'il était passible de peine, que ce soit de peine de mort ou de peine de prison, la Bible déclare que quand cet homme courait dans le tabernacle et qu'il s'accrochait sur le corne de l'autel, cet homme devenait automatiquement intouchable. Aussi longtemps qu'il s'accrochait sur la corne de l'autel, on ne pouvait le toucher, quel qu'en soit le forfait. La Bible dit, Dieu a dit aux enfants d'Israël, quand vous serez en train de vous départager les terres, prenez soin de mettre quelques villes, la Bible en cite 6, quelques villes de côté qui seront pour vous des villes de refuge, des cités de refuge. Peu importe le délit, celui qui entrait dans la ville de refuge était inattaquable, intouchable. Ésaïe 28, 16 dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. C'est lui qui la prendra pour appui, n'aura point hâte de fuir. Frère, la corne représentait le Christ dans son sacrifice. Rappelez-vous de ce que, aujourd'hui on va se rappeler beaucoup de choses, hein. Rappelez-vous de ce qui s'est passé dans le livre de Genèse au chapitre 22. Quand Abraham voulait sacrifier Isaac, alors que Dieu a vu son amour, Dieu lui a dit non, ne sacrifie pas Isaac. Voici le bélier qui a été offert, le bélier que tu dois sacrifier. Ne sacrifie pas Isaac. La Bible dit qu'Abraham a levé ses yeux et il a regardé derrière, il a vu le brebis. Mais comment étaient ces brebis? Ces brebis n'étaient pas attachés par une corde. La Bible dit que ces brebis étaient attachés au buisson par... Yeah, le temps est en train de courir. Si vous lisez Psaume, le chapitre 132, disons cela rapidement. Psaume 132, à partir du verset 11, nous pourrons lire même jusqu'au verset 17. La Bible dit exactement ceci. L'Éternel a juré la vérité à David. Il n'en reviendra point. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi pour toujours seront assis sur ton trône. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture, je rassasierai de pain ses indigents, je revêtirai de salut ses sacrificateurs et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, écoutez, là, c'est-à-dire à Sion, j'élèverai la puissance de David. Je préparerai une lampe à mon oint. J'ai lu une version Chouraki. Pourquoi? Déjà parce que ici, quand vous rentrez dans les textes originaux en hébreu, ce qui a été traduit par puissance de David, le mot qui a été traduit par puissance de David veut littéralement dire une corne à David. Donc quand Dieu dit à Sion, je lèverai la puissance de David, il dit autrement, lui en hébreu, je ferai pousser une corne à David. Une autre version que je lis, on dit aussi, à Jérusalem plutôt, je ferai naître un roi puissant dans la famille de David. Et une version Osterwald dit, à Sion, c'est là que je ferai lever une corne à David. Une autre version Chouraki dit, là je ferai germer une corne à David. Luc 1, verset 68 à 69, la Bible dit ceci, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, on parlait de la venue du Christ, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Littéralement, le mot qui a été traduit par puissant sauveur veut dire une corne de salut. Et Chouraki dit, il a réveillé pour nous le shofar. Ça vous dit quelque chose? Il a relevé pour nous le shofar du salut dans la maison de David. ce quoi qui se passe, Dieu a dit,
pardon mon frère,
le jubilé, vous n'allez pas entrer comme ça. Quand le jour du jubilé arrivera, vous allez sonner le shofar. Vous allez sonner la corne du bélier. Le jubilé prend même son sens par l'existence de la corne. Pourquoi? Parce que l'on ne peut souffler la corne sans sacrifier le bélier. En Israël, le prophète et les sacrificateurs avaient pour coutume, quand ils devaient oindre un roi, un sacrificateur, de prendre la corne de bélier dans laquelle il y avait l'huile d'onction. Et vous remarquerez dans 1 Samuel 16, le verset 1, où Dieu dit au prophète Samuel, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur moi. Remplis ta corne d'huile. » Le mot qui est traduit par « corne », c'est exactement le même mot qui est traduit par « jubilé, yobel ». Remplis ta corne d'huile et va parmi ses fils, vois parmi ses fils celui que je désire pour roi. Si vous lisez le verset 13, la Bible dit Samuel prit la corne d'huile qui était la corne des béliers. Éloigné au milieu de ses frères, éloigné David. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là. À partir du jour où on a pris l'huile qui n'était ailleurs que dans la corne. On a répandu sur David, l'Esprit de l'Éternel, depuis ce jour-là, l'a saisi. La Bible dit, écrivez seulement, un roi, 1 Samuel 39, le sacrificateur Tzadok prit la corne d'huile, toujours la corne du bélier, dans la tente et il oignit Salomon en sonnant de la trompette et tout le peuple dit, vive le roi, alléluia. Et de même, si vous lisez 2 Rois 9, 1 à 3, vous allez voir que le prophète Élisée est en train de mandater l'un des fils de prophète pour aller oindre Jéhu pour roi en Israël. Il dit, prends l'huile d'onction, prends la corne d'huile et avec ça tu vas oindre Jéhu comme roi en Israël. Quand il fallait qu'on puisse oindre un roi, un prophète, un sacrificateur, l'onction passait par la corne. Pourquoi? Parce que sans la corne, il n'y a pas d'onction, il n'y a pas d'huile d'onction. Voilà pourquoi, bien-aimé, le jubilé ne pouvait être que symbolisé par une corne. Pourquoi? Parce que à part le fait que la corne représentait le bélier qui devait être sacrifié par lequel nous accédions au jubilé, la corne contenait aussi l'huile d'onction sans laquelle le jubilé n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que Dieu a dit au sacrificateur, pour sonner le jubilé, tu vas souffler à la corne pour que le jubilé aille un sens. Et même pour que le jubilé existe, il faut qu'un souffle soit donné à la corne. Ésaïe dit ceci, dans le chapitre 10, le verset 27, « Et l'onction et la graisse fera éclater le joug. » L'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu, accordera l'affranchissement, la liberté. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? 2 Corinthiens, aïe, aïe, vous allez beaucoup écrire aujourd'hui. 2 Corinthiens, le chapitre 3, verset 17. La Bible dit, « Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Et là où est l'Esprit du Seigneur, c'est là où est la liberté. Il n'y a pas de liberté là où il n'y a pas d'esprit. Comme le jubilé ne peut être sonné sans souffle. Il fallait le souffle pour que la liberté soit annoncée. Voilà pourquoi, dans Luc, le chapitre 4, le verset 18, le Seigneur annonce, quand il était en train d'annoncer le jubilé, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour redonner la vie aux aveugles, renvoyer libres les opprimés, délivrer les captifs. Mais la version Chouraki est plus explicite. Chouraki dit explicitement, le souffle du Seigneur est sur moi. Le souffle devait descendre sur la corne qui était Christ, afin que l'année de grâce soit proclamée. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que la corne a déjà été soufflée. Tu n'as plus de raison de demeurer sous un esclavage quelconque, sous une servitude quelconque, car ta liberté, ta délivrance t'a déjà été accordée. Alléluia. Et l'apôtre Paul d'enrichir, il dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la corne a déjà été soufflée. Tu as besoin de la délivrance? Je t'annonce ce matin, la corne a déjà été soufflée. Tu as besoin d'être affranchi? La corne a déjà été soufflée. Tu as besoin de la main de Dieu? La corne a déjà été soufflée. Tu as besoin de voir la puissance du Seigneur? La corne a déjà été. Ah, frère, accède à ta délivrance ce matin. Je ne sais quel domaine de ta vie encore sous l'esclavage. Je ne sais qu'est-ce que le diable a volé dans ta vie. Ce matin, Dieu dit, la corne a déjà été. Ce que tu as perdu, tu peux le récupérer. La Bible dit, ces jours-là, même les esclaves rentraient dans leur famille. Autrement dit, quand la corne est soufflée, même les familles sont restaurées. La corne a déjà été soufflée. Ta famille n'a plus le droit d'être ce qu'elle est, car la restauration est venue. La restauration de ta vie, la restauration de ta santé, car la corne a déjà été. La Bible dit, et c'est par là que nous allons clore. Le jubilé ne viendra pas à n'importe quel moment. Le jubilé viendra après que tu aies compté les sabbats d'année 7 fois. Après que tu aies compté 7 années, 7 fois. 7 années, 17, dis après moi, 7 années, 7 fois. Or, nous le savons, quand le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, c'est le chiffre de la plénitude. Dieu a pris ce qui était parfait, il a 7 fois élevé à la perfection. Voilà pourquoi on ne sonnait pas les jubilés la première année, mais toutes les autres fêtes étaient célébrées. Chaque année, les 7 fêtes étaient célébrées, mais le jubilé n'est arrivé qu'au moment opportun. La Bible dit, quand le temps fut accompli, la version King James dit, in the fullness of time. Quand dans la plénitude de temps, il fallait que le temps soit accompli pour que le jubilé t'affranchisse. Le premier jour, malgré la célébration de fête, les esclaves n'étaient pas affranchis. Le deuxième jour non plus, le troisième jour non plus. Pourquoi seulement la 50e année? Parce qu'il fallait que l'œuvre atteigne un niveau de la perfection. Et Dieu a dit, vous allez multiplier les fêtes qui étaient déjà 7, vous allez les multiplier 7 fois, et encore les multiplier encore 7 fois, afin que l'œuvre soit amenée à la perfection pour être à même d'affranchir Israël. Voilà pourquoi Christ, en se mourant à la croix, il s'est dit, tout est. Pourquoi? Parce qu'il est venu accomplir une œuvre parfaite. Alléluia. Bien aimé, Dieu va faire dans ta vie une œuvre parfaite. Une œuvre qui n'aura pas point d'être revue. Une œuvre qui n'aura pas besoin d'être retouchée. Car ce qu'il fait, nul ne peut le défaire. Ce qu'il te donne, nul ne peut le ravir. Quand il délie, nul ne peut lier. Dieu a fait une œuvre parfaite. Une œuvre irréprochable. Dieu a fait quoi, irréprochable? Une œuvre irrévocable, dis avec moi irrévocable. Une œuvre inattaquable, dis avec moi inattaquable. Une œuvre qui dépasse l'entendement, dis avec moi inimaginable. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Nous allons louer le Seigneur, car il a sonné le jubilé. La corne a déjà été soufflée. Élève ta voix et bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu pour le sacrifice de son Fils, pour le sacrifice de son Fils. Bénis Dieu pour l'affranchissement, pour la liberté. Nous accédons à la liberté. Alléluia.
Merci, ma voix. Alléluia.
Élevons nos mains avant que Papa Véron puisse prier. Les infirmités disparaissent ce matin. Les chaînes de l'esclavage tombent. La stérilité libère. Alors que nous serons en train de chanter ces cantiques, la main de Dieu agit. Moli Mokita.
Dana Sengi,
Yosala. Chantons-les encore, Molimo Kita, Molimo, Molimo. Alléluia.
Molimo Kita, Tosengi, Yosala,
Etola Masia,
Etola Masia, Namitema.
Ce matin, Dieu s'occupe des maladies chroniques à cause du jubilé. Alors disons-lui quitte.
Yahweh bomoko to segi
yaso
kitisa yango
esinga
kati la biso ya yae kitisa moto
yaso
moto na yo
yaya
banguna basambwa
levons nos mains alors que les instruments continuent à jouer gardons nos mains levées. Il y a des gens qui ont perdu des dons spirituels qui les retrouvent. Quelqu'un qui ne parlait plus en langue les retrouve ce matin. Quelqu'un qui avait perdu le don de la parole des connaissances les retrouve. Chandarabo Sandarabashanda. Quelqu'un qui avait l'infirmité dans un domaine les retrouve. Retrouve la pleine santé. La tristesse est chassée. La joie est de retour. Le désespoir est chassé. L'espérance est de retour. La maladie est chassée.
Oh, Yababa Babasei. Yeria Babasei.
Iriabo Sakaria Baba say. Yenderebabo Sikariabos. Yadabasanda. Orio Bobo She. Éternel notre Dieu, toi qui as dit, après cela, je répandrai de mon esprit. Seigneur Dieu, le désert se changera en verger et le verger deviendra une grande forêt à cause de ton souffle. Ce matin, Père, souffle de ton esprit au milieu de ce peuple. Roule la honte, roule l'opprobre, enlève l'opprobre au nom de Jésus. Oh Rabasanda, Rabasokoro, Bobo, Yere Baba, Sekeria, Bobo, Sa. Keria, Baba, Sakaria, Bobo, Oh Père! Oh Père! Oh Père! Oh Père! Seigneur, c'est le temps. Rends les années perdues. Restitue ce que l'ennemi a dévoré. Parce que tu ordonnes la fête. Quand tu ordonnes, tu es capable. Ce matin, que le bras de l'Éternel, Seigneur, annonce de merveilles dans la vie de mes frères. Ce matin, Seigneur, c'est le changement. La tristesse se change en joie au nom de Jésus. La maladie se change en guérison au nom de Jésus. La captivité se change en délivrance. Au nom de Jésus! Seigneur, plus jamais la même chose. Plus jamais la même chose. Plus jamais la même chose. Parce que c'est le temps de jubiler. C'est le temps de jubiler. L'Église a crié jubiler!
Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.